Je vais vous inviter à prendre rapidement place pour pas qu'on prenne de retard sur notre programme. Donc, après cette matinée extrêmement riche, nous allons continuer par un temps, je dirais, non seulement philosophique, parce que Cynthia Fleury, que nous accueillons avec grand plaisir, a ce regard qu'elle va peut-être plus mieux vous décrire que moi-même, mais regard un peu croisé, à la fois de psychanalyste et de philosophe, tout en sachant qu'elle intervient également dans un lieu hospitalier qu'est l'Hôtel Dieu. Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont se retrouver dans son analyse et dans ce qu'elle a à nous dire. En tout cas, je la remercie mille fois d'avoir pris ce temps pour être auprès de nous et puis pour apporter son regard sur ce thème de parents d'élèves malades. Merci beaucoup.
Merci à vous. Merci à vous, vous dire que je suis très heureuse d'être avec vous pendant cet après-midi. Vous présenter un petit peu, en gros j'aurai quatre temps qui vont bien sûr s'entrelacer, mais dans mon propos. Un premier temps précisément pour vous présenter la chaire de philosophie à l'hôpital que je dirige. Vous la présenter parce que nous avons des terrains qui sont communs ou en prolongement. Et l'enjeu de ma présence aussi ici, quand j'ai découvert l'école à l'hôpital, en tout cas l'existence de cette association-là, c'était de voir comment nous pouvions nous mailler davantage, éventuellement nous renforcer les uns les autres, et donc vous présenter un petit peu la structure de la chaire de philosophie à l'hôpital. Ça, c'est un premier point. Un deuxième point, c'est vous présenter une autre structure qui est aussi liée à, je crois, ce que nous faisons, à savoir l'université des patients, et qui va dans cette idée de transformer ce que l'on nomme une vulnérabilité, et encore faut-il s'entendre sur ce qu'est la définition de la vulnérabilité, mais on va dire ce qui est généralement posé comme une vulnérabilité, bah précisément l'université des patients considère qu'on doit rendre capacitaire cette vulnérabilité, et que même les compétences acquises dans ces moments de fébrilité sont des compétences à valoriser, à certifier, etc. Donc vous dire quelque chose de l'université des patients avec laquelle la chaire de philosophie est extrêmement liée. Et puis dans un troisième temps, vous dire rapidement quelque chose sur cette nécessité de l'enseignement à l'hôpital. Alors que souvent on peut avoir à la fois du découragement et se dire que bon, c'est peut-être, ça manque d'efficacité. Donc j'essaierai de défendre précisément en quoi c'est absolument nécessaire. Et puis dans un dernier temps, revenir sur qu'est-ce que c'est effectivement la parentalité d'un enfant malade, et plus globalement, voilà, qu'est-ce que nous essayons de fabriquer ensemble, à savoir une fonction soignante en partage, et qu'est-ce que ça veut dire. Bon, alors un premier temps sur la chaire de philosophie à l'hôpital, elle a été créée récemment. C'était tout simplement pour réintroduire les humanités, poursuivre l'introduction, je ne sais pas comment dire ça, les humanités à l'hôpital. Le sentiment de beaucoup, c'est que très souvent, l'hôpital est un lieu de chosification, est un lieu qui, bien sûr, est d'une très grande technicité, et heureusement, mais que ça peut, par maints aspects de déshumanisation, être au final assez contre-productif parfois en termes de soins. Donc l'enjeu, c'était de dire, voilà, l'hôpital est un commons, un bien commun, et même, en bon français, un scientific commons, donc un bien commun scientifique, sous-entendu, ce doit être un lieu de partage du savoir, alors que là aussi, très souvent, il y a bien évidemment des asymétries hein, qui sont constitutionnelles de toute façon de toute relation, mais particulièrement aussi des relations qui sont à l'hôpital. Mais ces asymétries ne sont pas des inégalités, ou en tout cas, elles ne doivent pas donner le sentiment d'une inégalité ou voilà, d'une désingularisation d'un sujet qui est nié. Donc le premier enjeu pour la chaire de philosophie à l'hôpital, c'était de dire on ne soigne pas une maladie à l'hôpital, on soigne un sujet malade. Et si on soigne un sujet malade, toute la dimension de subjectivité doit être prise en compte. Et vous connaissez bien évidemment des travaux considérables sur cette question. Et donc nous avons tout un travail où nous travaillons la dimension subjective du soin. Ensuite, la deuxième question importante, c'était de dire comment créer une institution soignante, sous-entendu comment lutter contre la toxicité institutionnelle, qui elle aussi peut se mettre en branle assez rapidement. Et donc, on va dire que là, la chaire de philosophie, elle fait presque un travail de lanceur d'alerte, ou en tout cas un travail de production de théorie pour réfléchir sur quid de la meilleure organisation possible, comment lutter ou en tout cas ralentir, si j'ose dire, le burn-out des soignants, enfin toutes ces différentes questions qui s'interrogent sur comment rendre une institution capacitaire, encore une fois, et non pas qui viendrait renforcer de la vulnérabilité qui est déjà au départ présente. Et puis un dernier point qui était plutôt une approche politique du soin, au sens où il n'y a pas de cité, il n'y a pas de démocratie sans accès aux soins, sans repenser les solidarités à l'heure d'aujourd'hui. Et donc cette chaire de philosophie à l'hôpital, c'est une chaire d'enseignement. Et c'est une chaire de recherche, chaire d'enseignement au sens où elle donne des cours magistraux qui sont d'ailleurs, certains d'entre eux, filmés en ligne. Si vous regardez notre site, hein, si vous tapez sur n'importe quel moteur de recherche, chaire de philosophie Hôtel Dieu, vous serez redirigé vers nous. Et donc, des grands cours ouverts à tous, de philosophie, mais en règle générale des humanités. Et donc ça, c'est le conseil scientifique qui produit une maquette pédagogique autour de la philosophie. Qu'est-ce que c'est que la philosophie à l'hôpital? Qu'est-ce que c'est la dimension subjective du soin? Qu'est-ce que c'est la dimension institutionnelle? Mais ça peut être aussi des cours qui sont faits à la demande, par exemple, d'une entité de la PHP, en l'occurrence, par exemple la DPUA, que j'imagine vous connaissez bien par ailleurs, donc la Direction des Patients Usagers et Associations, qui dernièrement, il y a un an maintenant, nous a demandé de, pourquoi pas, faire un cours sur la laïcité, la religion et le soin. Et donc, on a dit, bah, écoutez, oui, on va faire ça, notamment en partage avec différents aumôniers de la PHP. Et donc, on a lancé aussi un grand cours qui n'était pas spécifiquement que de la philosophie, mais qui était un cours des humanités autour de, voilà, quelle conception du soin, quelle conception de la douleur, quelle conception de la souffrance, quelle conception du corps dans telle ou telle religion, et puis ensuite, comment ça vient travailler l'institution. Donc, formation initiale avec l'introduction des humanités dans le curriculum des étudiants à la faculté de médecine. Formation continue avec bientôt la proposition de DU, donc des choses voilà, classiques. Et puis, intégration des humanités, en tout cas mise à disposition des humanités pour les services hospitaliers, c'est-à-dire que les services hospitaliers, quels qu'ils soient, ceux qui le désirent, mais pas simplement les services hospitaliers, les associations de patients, les associations tout court, nos collègues dans telle ou telle chaire, les cellules éthiques, les centres éthiques, parce qu'il y a une constellation éthique sur Paris et partout ailleurs qui, elle aussi, peut venir à nous en disant bah, « Tiens, qu'est-ce qu'on peut fabriquer ensemble ?» Et là, à ce moment-là, on se met à disposition. Donc ça peut être, je vous donne quelques exemples, ça peut être des néphrologues qui viennent nous voir en nous disant, voilà, nous avons envie de travailler sur la question homme-machine et sur le patient créé par la dialyse. D'autres qui peuvent s'interroger sur l'empathie artificielle, l'arrivée des robots, l'usage des robots dans les services de la régulation à la chirurgie. D'autres qui vont vouloir s'interroger sur un sujet type les pleurs de l'enfant. On dit, mais pourquoi ? Mais parce que nous voyons, comment dire, un phénomène de retour des bébés secoués. Et donc, on aimerait bien savoir pourquoi le sujet enfant-bébé est si peu audible, d'une certaine façon, et pourquoi, de façon trans-classe, il y a encore cette prémanence des bébés secoués, etc., etc., etc. Et nous, on essaye à la fois de proposer cet enseignement ouvert à tous et en même temps de faire en sorte que les services hospitaliers se saisissent d'un corpus qu'ils connaissent parfois bien, parfois mal, à savoir les humanités en règle générale, et qui considèrent aujourd'hui qu'il n'y a pas de soins sans accès et sans maniement de ces humanités comme ressources première. Bon, voilà ce qu'on essaye de faire, et je pense que d'une certaine manière c'est assez proche aussi, différemment bien sûr, mais sur cette idée de la fonction soignante en partage, je pense que les enseignants que vous êtes, vous poursuivez le temps de l'enseignement à l'hôpital, mais vous poursuivez également le temps du soin. Un autre type de soin qui est le soin primordial premier, à savoir créer de la capacité, créer du capacitaire, créer de l'empowerment, là où précisément il peut y avoir des grandes vulnérabilités et des grandes fébrilités. Mais je vais y revenir. Donc voilà un petit peu ce que fait la chaire de philosophie, et par ailleurs elle est maillée avec l'Université des patients, que vous connaissez peut-être certains d'entre vous. L'Université des patients, maintenant, ça fait 5 ans. Et l'Université des patients est une structure rattachée à l'UPMC, c'est-à-dire l'Université Pierre et Marie Curie. Et elle a été spécialement créée pour diplômer des patients experts, avec 4 DU à l'heure d'aujourd'hui, mais demain 5, après-demain 6 ou que sais-je. Et les 4 DU aujourd'hui, c'est démocratie sanitaire, éducation thérapeutique, toute une clinique, tout ce qui a lien avec la clinique de rétablissement liée au post-cancer, etc. Et puis le dernier DU, je crois que ça se tourne autour du handicap ou du polyhandicap, je n'ai plus exactement la maquette dans la tête, mais en tout cas, l'enjeu premier de l'Université des patients, c'était d'utiliser le statut transférentiel, donc lié à la question du transfert, et le statut transitionnel de l'étudiant, pour précisément redonner, encore une fois, de la capacité à ces patients. Il s'avère que c'est un petit peu différent sur la question des enfants ou des adolescents, mais ça se parle tout de même. Il s'avère que les patients chroniques adultes, au fur et à mesure de l'évolution de leur maladie, très souvent des maladies chroniques compliquées, au fur et à mesure de l'évolution de cette maladie, ils subissent un processus de désocialisation et d'expulsion de leur propre vie, petit à petit. Généralement, ils sont d'abord expulsés par la sphère du travail parce qu'ils sont jugés inopérants, pas fiables, ne répondant pas aux diktats de la performance classique. Et donc, cette viabilité très très vite passe du domaine professionnel au domaine personnel. Donc voilà. Mais quand vous êtes dans une maladie chronique compliquée, c'est une maladie pour tous. C'est-à-dire que ça a une telle capacité d'irradiation sur votre vie que vous fatiguez un peu tout le monde. Et autant si la culpabilité est présente, forte, et maintient un lien fort du côté des parents avec les enfants et les adolescents, plus vous vieillissez, plus la culpabilité des uns et des autres laisse place à une réalité d'érosion. Et c'est pas souvent impossible qu'il y ait aussi une désocialisation affective ou sentimentale ou conjugale, mais bon, etc., etc. Et donc, petit à petit, comme ça, vous perdez lien Et vous-même, d'ailleurs, vous êtes souvent le premier à être fatigué de vous-même et de la réalité que vous traversez. Et tout d'un coup, d'utiliser, encore une fois, parce qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'instrumentation, même si, bien évidemment, la finalité, c'est la connaissance, mais il y a aussi quelque chose de l'instrumentation, de l'instrumentalisation de l'outil, à savoir être un étudiant. Cette parenthèse qui peut durer entre 2 et 4 ans à peu près, souvent avec un soutien financier parce qu'économiquement parlant, parfois il faut avoir une aide pour aider à faire ce travail-là. Voilà ce que fait encore une fois l'université des patients, c'est-à-dire d'aller considérer que ce qui s'est passé pendant X années de maladie ne correspond pas à un espace blanc sur le CV. C'est désagréable de dire ça comme ça, mais en gros, les personnes n'ont pas disparu de leur propre vie ou disparu de la société, mais elles ont consolidé un autre type de parcours. Mais l'enjeu, c'est alors, très bien, mais à ce moment-là, lequel ? Quelle valorisation ? Et comment nous traduisons ce qui a été vécu comme expérience intense, compliquée, etc. Comment nous traduisons ça en compétences ? Et donc, à ce moment-là, tout l'enjeu, c'est bien sûr de professionnaliser à terme cette séquence, mais dans un premier temps, c'est de se poser la question, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qu'est-ce que c'est que des compétences acquises dans l'adversité ? Qu'est-ce que c'est que faire telle ou telle action en régime d'incertitude, etc., etc. Et donc, petit à petit, qu'est-ce que c'est la conscientisation de son corps et des nouvelles techniques, l'invention de techniques d'observance, qu'est-ce que c'est, enfin, quantité de... on essaye d'être extrêmement inventif pour précisément venir valoriser ce qui est généralement dévalorisé. Et la magie opère, puisque non seulement il y a une réalité de réassurance très forte chez le patient, mais dans un deuxième temps, il y a l'émergence de nouveaux métiers, du soin. Et donc, je dirais que c'est un coup gagnant à deux niveaux, parce que au niveau de la personnalité de l'individu, il y a effectivement quelque chose qui est capacitaire, avec un sujet qui vient réémerger. Et puis, dans le deuxième temps, il y a quelque chose qui vient nourrir la réflexion collective, la démarche solidaire collective. Et donc, l'université des patients a diplômé l'année passée 111 patients. Et puis, cette année, cela continue. Donc, on a là vraiment deux types d'institutions, que ce soit la chaire de philosophie à l'hôpital. Il y en a sans doute d'autres, mais je témoigne essentiellement de ces deux-ci parce que je les connais davantage, qui sont vraiment à disposition, je dirais, de l'école à l'hôpital notamment, pour voir comment travailler ensemble ou si nous, on peut... vous aider de quelque manière que ce soit, encore une fois, parce que il y a là un continuum très fort, puisque nous manions le soin dans sa dimension globale, à savoir derrière le soin la question de l'attention. Soigner, c'est porter attention à autrui, mais la connaissance, c'est porter attention aux choses. Et donc, vous avez ce grand spectre-là derrière la connaissance et le soin, qui fait que c'est un continuum, je pense, à investir grandement. Alors justement, qu'est-ce que... en quoi, et j'en viens à mon troisième temps, justement, sur cette nécessité de l'enseignement, c'est, alors bien sûr, c'est de travailler déjà, je dirais, de lutter contre le délire de normalisation de la société, à savoir qui va, comme Candiem nous l'a tout à fait enseigné, poser une frontière entre le pathologique et le normal à tel endroit. Et bien évidemment, tout l'enjeu, je pense, c'est de montrer que la binarité qui nous est proposée n'est pas juste. Elle ne dit rien de la condition humaine et elle dit encore moins des parcours des uns et des autres. Et je ne parle même pas chez les enfants, puisque chez les enfants et chez les adolescents, vous avez normalement là l'enfance, c'est le moment de la potentialité. Donc c'est un moment très particulier, puisque c'est généralement même une... Il y a une assimilation comme ça entre émerveillement et potentialité, alors que chez l'adolescence, déjà, il y a peut-être des premiers renoncements, des premières désillusions et des premières dichotomies entre la potentialité et l'émerveillement. On commence un peu à... Ce sont des moments un peu plus de crise, sans doute, que ce qui est lié à l'enfance. Mais quand vous vous souvenez de la définition de Candiem dans le normal et le pathologique par rapport à qu'est-ce que c'est qu'être un sujet malade, qu'est-ce que c'est qu'avoir une maladie, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, et comment dans des maladies graves, bien évidemment, ce n'est plus le problème d'avoir une maladie, c'est que vous êtes votre sentiment à vous-même, votre sentiment au monde, votre lien avec les autres, votre lien avec le monde et votre lien avec votre propre sujet sont atteints. Et Candiem le dit, voilà, être malade, à ce moment-là, c'est être atteint d'un sentiment de vie contrarié. Bon. Et précisément, qu'est-ce que la définition de l'homme, mais on pourrait dire la même chose de l'enfant, c'est une définition de l'insatiable, c'est-à-dire qu'on se sent homme lorsqu'on a le sentiment que l'on peut passer outre la limite, ou en tout cas qu'on a la possibilité de dépasser ses limites, qu'on a un rapport qui peut être un peu au-delà de ce qui est proposé comme carte de départ. Et donc cette sublimation possible, c'est ça qui est atteint dans le sentiment de la maladie, c'est-à-dire le propre sentiment capacitaire qui est atteint. On ne se sent plus capable, on se sent atteint dans sa potentialité, et pas simplement dans son intégrité physique. C'est un chemin de plus, parce que vous pouvez tout à fait avoir un bras cassé, vous êtes atteint dans votre intégrité physique, vous n'êtes absolument pas atteint dans votre déploiement d'âme. Vous dites, bon, ça va durer ce que ça va durer, et puis après je retourne à mon horizon ontologique et j'ai le sentiment que ma vie peut se déployer. Non, quand vous êtes atteint par une maladie importante, vous le savez mieux que moi, c'est précisément votre présence au monde qui est atteinte, et avec un sentiment de ne pas pouvoir déployer votre destin de la même façon. Donc bien évidemment, tout ce qui va venir renforcer notre capacité de sublimation va faire du soin. Et je crois que nous oublions trop, enfin, peut-être pas tous hein, bien sûr, mais que le soin est un acte de création, c'est-à-dire que précisément il faut créer quelque chose qui, en amont du soin, n'existe pas. Et créer ce quelque chose peut n'avoir strictement rien à voir avec la guérison. C'est encore autre chose. Hein. Ce qui différencie le guérir du soin, c'est que, et je pense que bien évidemment, les enseignants sont porteurs d'une capacité de sublimation, et très souvent par aussi la position un peu transférentielle dans laquelle ils se situent, c'est peut-être parfois plus simple, plus aisé pour eux d'utiliser cet instant qui est le leur pour transformer, pour réassurer le sujet qui est en face. Et même si souvent ils peuvent avoir le sentiment d'un aquabonisme, parce qu'ils vont voir de manière décousue, discontinue, les enfants, les adolescents, et puis ils vont sentir un investissement plus ou moins fort de l'autre côté. Il n'empêche que, d'abord, comme c'est une vérité classique dans l'enseignement, on ne sait pas quand ça se déploie. En tout cas, je pense qu'il faut poser comme idée régulatrice qu'on ne sait pas quand ça se déploie, et que notre rôle, c'est de poser les conditions de possibilité d'un déploiement. Que ces déploiements aient lieu à l'instant T devant nous, bah, c'est mieux, je dirais, pour notre sentiment personnel, ça nous redonne un peu de courage. Qu'il ait lieu à un autre moment, bah, il aura lieu à un autre moment. Qu'il n'ait pas lieu, nous aurons participé éventuellement à ce que quelqu'un d'autre puisse le faire émerger. Donc, de toute façon, dans tous les cas, je pense que c'est une des fonctions premières, de toute façon, de l'enseignement, de créer de la capacité chez un sujet. Alors, d'autant plus quand ce sujet est dit vulnérable. Et en plus, si au passage, on peut démontrer que les sujets vulnérables sont tout à fait capables,
ça sera d'autant plus essentiel pour la société en règle générale et sa conception, encore une fois, de ce qui est normal, pas normal, et qui produit les désastres que nous connaissons, en tout cas les désastres moraux. Donc ça, c'est un point. Un autre point, c'est que je pense que non seulement ça aide l'enfant ou l'adolescent, mais que ça aide, en tout cas s'il est au courant, le parent. Pourquoi ? Parce que quand vous êtes parent, de fait, et que votre enfant est malade, je dirais qu'il y a une double centralité qui se met en place. Bon, d'abord celle de l'enfant, qui est généralement une centralité pour un parent, mais la maladie est une autre centralité et qui vient comme ça sans cesse le remettre sur cette route de à la hauteur de sa parentalité. Et ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple parce qu'il faut faire des choix, il faut arbitrer. Et généralement, quand vous êtes un parent, votre première implication auprès de votre enfant, ça va être de permettre le soin, de permettre la guérison. Et donc de faire en sorte que déjà, tout soit convergent avec ça. Et donc, par exemple, la question de l'éducation, la question de la scolarité, elle va passer derrière. Bien sûr qu'elle va passer derrière. Sauf que tout parent, une des grandes fonctions du parent, c'est d'éduquer. D'éduquer, et puis la ligne de partage entre éduquer et instruire, elle n'est pas si simple que ça. Donc, tout d'un coup, d'avoir quelques relais, d'avoir des relais dans la présence d'enseignants qui, eux, sont à la juste distance parce qu'ils ne sont pas impliqués émotionnellement de la même façon, donc ils sont capables de venir aussi porter quelque chose à un instant T et peut-être d'être moins vidés par cet acte-là. Je pense que c'est important parce qu'ils ont un peu le sentiment que tout d'un coup, tiens, cet acte de parentalisation, cet acte de parentalité, peut-être plusieurs adultes vont un tout petit peu la prendre en main. Parce que quand vous êtes un parent, généralement, vous faites faire, vous suivez les devoirs de votre enfant, vous suivez la question scolaire. Et là, tout d'un coup, avec un enfant malade, souvent, vous êtes obligé, par une question d'arbitrage des priorités, de peut-être lâcher sur quelques questions, avec un sentiment aussi de renforcement de votre culpabilité, parce que vous lâchez aussi là. Donc, si d'autres adultes peuvent assurer ce continuum de la parentalité, au final, ce n'est pas nécessairement, encore une fois, alors c'est peut-être trop, encore une fois, je le dis sans aucune volonté de normalisation, ni d'exigence, mais voilà, je dis juste que ça peut être une piste importante pour les parents aussi et un soutien pour les parents possibles. Et puis, autre point important, encore une fois, pourquoi je dirais que l'enseignement est un soin en lui-même, d'une certaine façon. Je me rattache à différents travaux, mais notamment aux travaux de Winnicott. Alors, pas du tout sur ce qu'il appelle la mère suffisamment bonne, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais en revanche, je vais tout de même parler de quelque chose qu'il rapporte à la mère et que je vais rapporter pour ma part à la parentalité, donc parce qu'on va dire que son époque faisait que davantage la fonction parentale, éducative était plutôt portée par la mère à ce moment-là, mais que l'enjeu c'est que ce soit bien évidemment un portage bien plus universel. Et Winnicott explique que le soin premier, et d'ailleurs dit-il, c'est l'archétype du soin ordinaire et du soin thérapeutique. En fait, le thérapeute ne fait que refaire ce qui a été fait ou n'a pas été fait dans ce moment inaugural, à savoir ce qu'il appelle la préoccupation maternelle primaire. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le premier soin qui est porté, c'est tout simplement le regard d'un adulte, l'attention d'un adulte sur un enfant et qui fait que ce soutien premier va faire que cet enfant va être capable d'entrer en contact avec le monde. Il le dit, il va pouvoir rencontrer le monde à petite dose. Donc on voit très bien ce que ça veut dire. Et il a une formule assez géniale pour dire, il parle d'élaboration imaginative de la mère. Et je pense que, en fait, on pourrait tout à fait le dire de l'enseignant, de tout simplement de le dire du parent en règle générale, du thérapeute, c'est-à-dire que nous produisons des élaborations imaginatives qui viennent soutenir le sujet alors que tout s'effondre, ou alors que tout n'est pas encore en place. Tout n'est pas encore en place chez un enfant, un petit bébé. Hein, d'ailleurs, vous connaissez la formule de Winnicott, un bébé, ça n'existe pas. On dit, pardon, non, un bébé sans quelqu'un derrière qui tient le bébé et tient tout d'un coup derrière le bébé, en fait, il y a toute la lignée des hommes et la préoccupation des hommes par rapport à ce bébé. Ah, d'accord, on comprend effectivement mieux. Mais de la même façon, le soin premier, refaire du nerf et du lien entre le soin et, encore une fois, la capacité créatrice du sujet qui, lui, n'est pas malade, mais qui est capable d'amener cette part de soi, tout de même, avec une juste distance aussi, hein, parce que c'est pas simple, et Dieu sait si on peut être touché parfois et découragé, parce que les enseignants sont eux-mêmes des parents, et qu'ils sont eux-mêmes pris parfois dans un tourbillon émotionnel qui est pas si simple. Mais il n'empêche que, je pense que cette élaboration imaginative première, encore une fois, elle est matricielle du soin, et c'est comme ça qu'elle nous permet d'avoir cette fonction soignante en partage. Voilà un petit peu les quelques temps que je voulais, vous donner, et donc maintenant ouvrir à la discussion pour être plus spécifique et lié au sujet qui vous concerne davantage. En tout cas, j'essaierai d'y répondre. Merci.